Quels parents sommes-nous? L'éducation positive en question? Une conférence France Inter déclinée en podcast en partenariat avec la MAE.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Ali Rebehi. Pour commencer cette série de podcasts autour de la parentalité, on démarre avec un extrait d'une vidéo de Mélissa et Fred. Elle va forcément vous interpeller.
Nous, on n'a pas encore d'enfants, mais on a des principes.
Moi, j'ai des enfants, donc j'ai plus de principes.
Déjà, on ne donnera pas la tétine.
J'en ai racheté plein et des fluos, comme ça on arrêtera de les chercher partout parce que ça me rend dingue.
Avec nous, pas d'enfant roi.
Oh là là, quand ils nous regardent comme ça avec cette bouille, on peut rien leur refuser. Hein. Demande tout ce que tu veux à maman, elle fera tout pour toi maman, tout.
Faut qu'ils soient autonomes. J'arrive, je viens t'essuyer.
Faut que ça file droit, un seul mot.
Autorité.
Arrête de faire ça. Bon bah fais-le, mais pas longtemps.
Autorité.
Écoute-moi, sinon, mais m'écoute pas.
Autorité.
1, 2,
autorité.
77.
Il y aura pas d'écran.
Non.
Ok, je vais charger le portable à fond, comme ça on sera tranquille pour le resto.
Yes.
Les dessins animés, ça rend débile.
Par contre, faut pas qu'ils nous envahissent.
Ah non, on a plus de salon, c'est sa salle de jeu.
Oh, c'est mieux pour lui.
Nous maintenant, on prend l'apéro dans les chiottes. D'ailleurs, si tu veux, il y a des tomates cerises et des Monster Munch sur la cuvette.
Faut les préserver de nos états d'âme.
Mais si ça continue, maman va mettre la tête dans le four et c'est pas pour aller chercher un gâteau, hein.
En fait, on pense que ça n'apporte rien de crier.
Voilà, ça fait du bien.
Ah nous, on changera pas notre rythme.
Non, il va falloir qu'il s'adapte.
Impeccable, j'ai calé toutes mes réunions sur ses siestes.
En gros, nous, ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on veut.
On fait ce qu'on veut.
La vidéo de Mélissa et Fred vous a sans doute interpellé. Qui dans le public s'est senti concerné? Qui s'est reconnu? Levez la main, sondage, au doigt mouillé. Ouais, pas mal. Alors permettez-moi de vous présenter mes invités, des experts réputés dans leur domaine. Bonjour Didier Pleu.
Bonjour Ali.
Vous êtes le doyen.
Hein,
c'est pour ça que je commence par vous. Vous dirigez l'Institut français de thérapie cognitive et vous enseignez à l'Université populaire de Caen. Vous avez publié chez Odile Jacob l'éducation positive. Ça suffit, ça promet ce soir, Didier Pleu. Bonjour, docteur Catherine Guéguen.
Bonjour.
Vous êtes médecin pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité et formatrice de professionnels à l'enfance. Et vous avez notamment publié aux Arènes « Petites et grandes questions pour une enfance heureuse ». Bonjour, Bruno Humbeck. Vous êtes le Belge de l'étape, hein? Vous êtes psychopédagogue et directeur de recherche au sein du service des sciences de la famille de l'université de Mons et vous avez notamment publié chez Mardaga Hyperparentalité, apprendre à lâcher prise pour le bien des parents et des enfants. Bonjour Rebecca Shankland.
Bonjour.
Vous êtes la lyonnaise de l'étape, vous êtes professeur des universités en psychologie du développement, vous êtes responsable de l'observatoire de la parentalité et du soutien à la parentalité et vous avez publié chez Erol s'initier à la psychologie positive avec une préface de notre cher ami Christophe André. Allez, petite réaction à la vidéo que nous venons de regarder où les principes se heurtent à la réalité. Bruno Humbeck.
Cette vidéo, elle montre effectivement ce qu'on a tous été, hein, c'est-à-dire ce qu'on a tous rêvé d'être en tout cas. Un parent idéal, avec un enfant idéal, dans un monde idéal. Et puis on a dû faire le deuil du fait qu'on n'était pas des parents idéaux, qu'on n'avait pas à l'être d'ailleurs. Hein. C'est un très mauvais plan d'essayer et de devenir un vrai parent idéal. Une mère idéale ne fait jamais que des enfants parfaitement crétins. Parce que l'enfant, il va se construire dans le manque. Si vous répondez en permanence aux besoins de votre enfant, il ne va pas les mentaliser. Et évidemment, l'enfant n'est pas idéal. Hein, et il va très très vite démontrer qu'il ne correspond pas à ce qu'on souhaite. Et le monde, on est bien placé pour le connaître pour le moment. Il n'a rien du monde idéal dans lequel on a convoqué à naître nos enfants, hein, puisque pour la plupart d'entre nous, les enfants, c'est pas des heureux événements, c'est pas des accidents, ils sont littéralement convoqués à naître. Et ça crée effectivement, à ce moment-là, ce qu'on voit sous forme humoristique, mais qui est parfois aussi un peu tragique, hein, ce triple deuil.
Rebecca Shankland.
Oui, cette vidéo m'a rappelé une recherche qui a été menée par Martin Hoffmann qui a montré que 70% des interactions qu'on a avec nos enfants autour de l'âge de 7 ans portent sur un aspect disciplinaire. Et donc la question, c'est quel type de méthode disciplinaire va être efficace ou non.
Catherine Guéguen.
Là, cette vidéo montre la réalité des parents. C'est-à-dire que la plupart des parents, ils veulent bien faire. Mais dans la réalité, ils se sentent totalement démunis. Et en fait, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à savoir comment faire au mieux. Et ils ont, ça c'est mon leitmotiv, ils ont absolument besoin d'être soutenus et accompagnés.
Didier Pleu.
Je rejoins Catherine parce que ils sont bien gays les parents là, mais moi je vois surtout des parents en burn-out hein, qui sont complètement épuisés, qui ne savent plus quoi faire. Mais par contre c'est bien au niveau des clichés parce que c'est tous parents, on bascule toujours un petit peu dans le permissif, un peu dans l'autoritarisme. J'espère que ce soir notre rencontre fera que on reprendra mon leitmotiv amour et frustration, les deux. Est-ce que c'est possible ?
Alors avant de faire un bond dans le passé, de faire une brève histoire de la parentalité depuis deux siècles et d'esquisser donc la place de l'enfant dans les familles depuis un siècle et demi, j'aimerais vous citer une étude publiée par Opinionway et la MAE, notre partenaire ce matin, ce soir, d'après cette étude publiée en mai 2022, le dialogue, l'amour, la protection, la complicité demeurent les principaux piliers de la relation parent-enfant, sans oublier la codécision. Je ne vous révélerai pas un scoop en vous affirmant qu'il y a un siècle et demi, l'amour, la protection, la complicité, la codécision n'étaient pas vraiment les piliers de la parentalité. Sachez que, d'après le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, la parentalité n'apparaît, vous le savez, qu'en 1931 pour désigner le statut, l'état de parent. Et jusque-là, le mot de parentalité était utilisé dans le domaine de la biologie. Alors l'histoire des enfants des années 1890 à nos jours, d'Éric Allary, raconte comment les enfants sont passés du statut de quasi-objet à celui de personne au cours des années 1960. Au fil du temps, l'enfant est donc devenu un sujet de droit protégé et considéré, Rebecca Shankland.
Oui, tout à fait. C'est ce qui a amené d'ailleurs à la loi en 2019 pour l'interdiction de la fessée, hein, basée sur une quantité de recherches qui ont montré les effets néfastes des châtiments corporels.
Catherine Guéguen.
Oui, tout à fait. Avant, l'enfant n'était pas désiré, il n'y avait pas de contraception, et il était souvent utilisé, et il travaillait. Il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, il travaillait 15 heures dans les mines, certains enfants, et dans les ateliers. Donc, l'enfant, à l'heure actuelle, grâce à la contraception, la plupart du temps, il est choisi, il est désiré. Et les parents, évidemment, ils veulent bien faire et faire au mieux. C'est ça la difficulté. Parce que on veut faire au mieux, mais la réalité nous montre que c'est très compliqué et très difficile.
Bruno Humbeck, pendant longtemps, la forte mortalité infantile, la rareté d'un contrôle des naissances a eu tendance à freiner l'attachement des parents à leurs enfants. Faut pas l'oublier. Hein. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire cette petite histoire, ce petit historique avant de comprendre comment l'éducation positive a pris une telle place dans notre vie.
Tout à fait. Un petit complément pour la notion de parentalité, parce que c'est vrai que ça vient de la biologie à la base, mais ça a très vite envahi le champ des sciences humaines. Moi, j'étais chercheur en éducation familiale. Et puis est arrivé dans les années 80 le mot parentalité, qui signifiait simplement que l'éducation, c'était quelque chose dont chaque enfant allait se réapproprier la forme. Vous avez trois enfants, vous donnez la même éducation aux trois enfants, vous aurez trois enfants différents. Et la parentalité, c'est lié à cette idée que maintenant, l'éducation, c'est aussi quelque chose qui est transformé par l'enfant. Et la pédagogie positive est venue, effectivement, dans le creuset de cette idée de développement personnel, pour dire, mais comment est-ce que je vais faire en sorte que mes trois enfants se développent de manière singulière et s'épanouissent aussi de manière singulière, avec alors une pression énorme sur le dos des parents, puisqu'il ne s'agissait plus seulement de bien élever des enfants. Auparavant, vous transmettiez des valeurs, ils étaient bien élevés. Maintenant, il faut participer à leur développement, et donc ça va donner effectivement non seulement beaucoup de pression, mais aussi des critères d'évaluation beaucoup plus compliqués à gérer.
Quand un enfant survivait, il était considéré comme une bouche à nourrir et comme des bras pour travailler. À la fin du 19e siècle, l'enfant est soumis à la toute puissance du pater familias, de l'autorité parentale indiscutée et indiscutable. Didier Pleu, vous êtes le fruit de cette éducation aussi, jusque dans les années... 50.
Ali me rajeunit. Oui, je suis né en 52. Donc effectivement, même si j'étais souvent critique envers Dolto, j'aurais bien voulu que mes parents lisent Dolto. C'est ça, en fait. On était victime du pater familias. Moi, je me souviens, j'étais à la droite de mon père parce qu'il avait moins de distance pour me baffer. Donc, bon, c'est un petit peu moyen. Mais c'est vrai aussi que on avait besoin de quoi, nous? À l'époque, on avait besoin d'empathie, de tendresse, de respect. Et je crois que c'est ça qui a été la grande révolution. Dolto, pas toujours d'accord, m'a fait les bonnes choses dans ce qu'elle disait. Mais ce que je dis maintenant, c'est de quoi ont besoin nos enfants? Moi, ce que je vois, c'est que le problème numéro un n'est pas une carence affective, n'est pas une histoire de développement personnel, mais surtout une grande intolérance à la réalité, à tout ce qui est déplaisant et frustrant. Donc, est-ce qu'on peut pas continuer le développement personnel dans le sens amour, respect, mais aussi instruire nos enfants sur comment ils vont faire pour, comme disait Lacan, se colter la réalité un peu.
Mais comme le dit Didier Pleu, et c'est très vrai, il fut un temps où l'empathie était la nécessité, et on a fait descendre Mary Poppins du ciel, pour essayer de mettre un peu d'empathie avec un père qui était hyper rigide, hein, qui était uniquement le père sévère au sens plein du terme. Maintenant, on a remplacé sans doute Mary Poppins par Super Nanny. On n'a pas gagné au change, hein, très clairement, mais ça montre effectivement qu'il y a peut-être un manque, en tout cas ressenti par les parents, au niveau des structures, des limites, de la manière dont on doit punir, sanctionner, mettre de l'ordre dans tout ça, tout en préservant l'empathie.
Alors, quand, d'après l'historien Éric Alary, il aura fallu deux guerres mondiales pour que les adultes pensent à mieux traiter les enfants. Peu à peu, l'enfant passe d'objet à nourrir à sujet de droit. Au cours des 30 Glorieuses, vous l'avez dit, l'enfant devient désiré. Et au fil des années 50, 60, 70, les enfants du baby-boom profitent de la prospérité, l'habitat se modernise, les revenus augmentent, la santé des enfants s'améliore très nettement, la mortalité des enfants chute. Avec des conséquences très claires sur l'éducation des enfants.
Alors l'idée, effectivement, que le but du jeu maintenant, c'est d'arriver au développement individuel de chacun. Alors c'est vrai que c'est les sociétés d'opulence. C'est pas les guerres qui ont créé ça. Hein, ce sont les sociétés d'opulence qui fait que finalement on se dit mais j'ai convoqué un être, donc la biologie, notamment la contraception, hein, comme ça vient d'être dit, comme les naissances programmées, par exemple, ben on convoque un être, nos enfants, dans un monde opulent, dans un premier temps. Alors l'hyperparentalité, évidemment, et la pédagogie positive, là, on se dit, mais ça va, tout va bien, on va vers le meilleur et le mieux pour tous. Et puis on se rend compte, c'est pour ça qu'être hyper parent dans le contexte actuel, c'est beaucoup plus compliqué, que le monde montre des signes de faiblesse, et avoir convoqué à naître son enfant dans le monde tel qu'il se manifeste actuellement, c'est la double peine. Hein. Je l'ai fait venir. Non seulement je n'arrive pas à être le parent parfait que je me suis mis en idée de devenir, j'ai un enfant qui manifeste effectivement un écart par rapport à... Parce que c'est un petit peu ça qui a été critiqué à la pédagogie positive, le laisser croître. On va laisser aller, il va devenir parfait. Si j'écoute par exemple Céline Alvarez, moi j'ai pas rencontré les mêmes enfants dans les écoles. Hein. Elle va vous dire, on donne un alphabet mobile au milieu d'un tas d'enfants, et les enfants vont spontanément faire des mots avec. Mais non, moi, enfin, en tout cas, dans les classes où j'ai été, ils prennent l'alphabet mobile, ils se tapent dessus, ils mâchouillent les lettres, et ils font tout sauf des mots. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, l'éducation. Et je pense que ce qui est important, aujourd'hui, c'est de se dire, évitons de sortir en disant, il y en a qui ont raison, il y en a qui ont tort, mais ça dépend. Ça dépend, et tout ça est complexe, mais il faut pas être déboussolé par rapport à ce qui se produit actuellement, parce qu'on est sans doute dans, comme Didier Pleu le disait tout à l'heure, hein, l'empathie a pris tout le terrain, à un moment donné, dans l'éducation familiale. Et donc, il faut surtout le préserver. Donc, dire, la pédagogie positive, c'est nul, il faut jeter tout ça, c'est lamentable comme attitude. Il faut garder ce qu'il y a de meilleur, en modulant, sans doute, avec, comme tout système scientifique, hein, les interrogations que pose un système lorsqu'il prend le terrain de manière complète.
Rebecca Shankland.
Oui, en fait, je pense qu'il y a deux confusions avec le terme éducation positive. Il y a cette idée qu'il faudrait que l'enfant ne soit plus exposé à des émotions difficiles. Donc, on croit qu'il faut qu'il soit toujours heureux, toujours joyeux. Donc, on va essayer d'éviter tous les obstacles. Alors qu'en réalité, l'objectif de l'éducation, c'est d'aider l'enfant à traverser, à surmonter ces obstacles et donc développer toutes les compétences dont il aura besoin pour faire face à ces situations. Donc, ce qu'on appelle les compétences psychosociales ou socio-émotionnelles qui vont être utiles tout au long de la vie. Et la deuxième confusion, c'est de croire que l'éducation positive, c'est une éducation où on ne poserait pas de limites, c'est-à-dire où on laisserait juste l'enfant se développer comme il le souhaite, alors que l'éducation, en tout cas ce qui a été montré par les recherches en termes d'efficacité, c'est à la fois effectivement d'être à l'écoute de l'enfant, être empathique, donc pouvoir répondre à un certain nombre de besoins en fonction de l'âge, mais aussi d'avoir la capacité à poser un cadre qui va être structurant pour l'enfant et favoriser aussi son développement.
Didier Pleu.
Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on est toujours soupçonné de contresens en disant c'est le monde des bisounours, l'éducation positive, laxiste, etc. Non, il n'y a pas de contresens, mais quand je lis qu'il faut éviter toute colère à un enfant, là, je me dis que je n'y vais pas, et je te rejoins quand tu me dis que c'est un modèle général pour tous les tempéraments. Non, il y a des colères qui ont du sens, et dans ce cas-là, on a besoin d'empathie, de respect, de chaleur, mais il y a des colères pulsionnelles, qui ont besoin de fermeté, pourquoi pas d'un fil dans ta chambre quand on est un petit peu impuissant. Mais c'est ça que l'on veut dire, c'est du sur-mesure. Ce qu'on reproche au grand modèle de l'éducation qui vient de la psychologie positive, c'est un modèle général. Alors, qui dit modèle, ça veut dire dogmatique, ça veut dire qu'on perd le bon sens, et les parents perdent le bon sens. On verra dans les sketchs comment on retrouve le bon sens. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, de toute façon.
On va revenir précisément sur ce qu'est l'éducation positive et sur ce qu'elle n'est pas, mais j'attends vos questions là dans le public. Je viens vers vous. Hop, alors, est-ce qu'il y a des questions? Un micro va aller vers vous, jeune homme. Il y a déjà une question pour vous, Monsieur Pleu, mais je vous la pose dans quelques instants, juste après avoir écouté. Monsieur.
Moi, c'est pour vous, madame. Quand vous dites la recherche montre par rapport à des résultats positifs, une éducation qui est efficace, quand on dit qu'elle est efficace, c'est on se fonde sur quels résultats pour dire que ça a été efficace.
Oui, très bonne remarque. En fait, le terme éducation positive, lorsqu'il est utilisé dans la recherche, signifie éducation qui a des effets positifs sur le développement de l'enfant, donc à la fois sur son bien-être et sur la qualité des apprentissages. Donc c'est ça les deux variables qu'on va regarder et qu'on va regarder à long terme sur la prévention des conduites à risque, sur les problématiques de santé mentale comme l'anxiété et la dépression.
Y a-t-il une autre question ici au studio 104 de la Maison de la Radio sur cette partie-là? Il y a une question pour vous, Didier Pleu. Vous pourfendez évidemment l'intolérance à la frustration dans beaucoup de vos livres. Et Cédric nous demande, pourquoi souhaiter frustrer volontairement les enfants dans une société qui n'est pas pensée pour eux et qui s'en charge très bien? La plupart des environnements ne leur sont pas adaptés.
Oui, ben c'est la question, est-ce qu'on adapte le monde à l'enfant ou est-ce que l'enfant doit s'adapter au monde? Et je pense que c'est pas parce qu'on a un climat assez permissif qu'il faut dire arrêtez, ils sont assez frustrés comme ça, on va pas commencer à poursuivre ça à la maison. Non, non, je crois que c'est... Vous savez, j'ai toujours parlé des histoires du striatum, comme disait Sébastien Boller. Là. Je crois
le striatum, humain... c'est une structure dans le cerveau où siège le principe de plaisir.
Oui, et je crois que c'est le creuset humain du principe de plaisir, donc plus on est jeune, l'enfant, puis même si les adultes, on voit bien ça, on est branché biologiquement pour le principe de plaisir. Donc, on est branché aussi pour avoir un attachement sécure et formidable, mais aussi pour « je veux tout, tout de suite ». C'est ça le problème. Et selon les tempéraments, il y a des enfants anxieux, plutôt introvertis, distanciés, qui n'ont pas ce problème. Ils ont peut-être un petit striatum, mais j'en vois de plus en plus, moi, qui sont à quémander, à l'immédiateté, etc. Donc, il faut leur apprendre. On va pas dire moralement « c'est pas bien, t'es un... » Non. Je vais t'apprendre un peu comme je vous racontais avec mon petit enfant par alliance, quoi. Je lui ai dit, si
tu dis pas bon. Racontez-nous, vous nous racontiez ça. Parce que cet été,
non, mais il est sympa, mais cet été, il vient, pof, au petit déjeuner, il passe devant moi sans dire bonjour. Donc moi, je dis attention, là, qu'est-ce qui se passe?
Il a quel âge?
11 ans. Retourne d'où tu viens. Donc il vient, il a compris, il revient, il dit bonjour, mais il me regarde pas. Alors tu recommences. Il repart, et puis après, il revient en me souriant, etc. Une espèce de fou rire un peu faux cul, enfin bon. Mais après, oui, non, mais là, j'étais dans le côté, non pas fil dans ta chambre, mais je stoppe. Pour moi, c'est un comportement d'insolence. On avait préparé le petit déjeuner, il n'y avait rien qui justifiait ça. Par contre, je l'ai revu après. Et après, je lui ai expliqué, si tu dis pas bonjour comme ça, c'est parce que quoi? T'avais faim, tu veux te jeter sur la bouffe tout de suite, quoi. Et on n'existe pas. Ils sont pas pervers, les enfants. Quand je dis qu'ils sont rois, je ne dis pas qu'ils le font exprès. Ils sont tellement prisonniers de j'ai faim, je mange, qu'on voit pas l'autre. Et c'est ça que j'essaie d'enseigner. Je lui ai dit, écoute, t'as du mal avec ça, toi. Quand t'as envie, faut que ça se passe. Oh, oui, c'est un peu ça. On a repris tout ce qui marchait pas à l'école. Et je lui ai dit, écoute, je vais te filer un petit bracelet que m'a donné une Québécoise. Dessus, c'était marqué, je vais vous le dire avec l'accent québécois. J'aime pas ça, mais c'est comme ça. Il a mis le bracelet. Je l'ai revu il y a 15 jours. C'était pas vu depuis un mois et demi. Il l'avait encore. Alors je lui ai dit, il m'a dit, c'est dur. Mais j'essaye d'apprendre. Je crois que c'est ça, la transmission. Mais je suis pas autoritariste, j'ai pas filé de baffe, j'ai pas engueulé, j'ai pas traité de petit con ni quoi que ce soit. Oui.
Rebecca Chancland.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un très bon exemple de ce qu'on appelle aussi l'induction dans les modalités pédagogiques où plutôt que simplement de punir, ce qui va être peu efficace, on va expliquer en fait, essayer de montrer qu'on a compris que ça peut être compliqué et que voilà.
Mais je n'ai pas accueilli son émotion, j'ai dit niette.
C'est ça, donc au moment où il y a le comportement, le fait d'arrêter, mais vous avez repris derrière cette question.
Oui, mais dans l'éducation positive, on doit accueillir l'émotion. Non.
Mais c'est plutôt cette idée de comprendre, en fait. C'est la dimension d'empathie.
En phase 2.
« Merci pour votre écoute. Dans le deuxième épisode, nous discuterons de la définition de l'éducation positive.